On va voir un pur rouge de la Megillah un peu différent. Donc, à quel moment se situe l'histoire de la Megillah? C'est à la fin des 70 ans d'exil. Donc, l'histoire de la Megillah elle dure longtemps. C'est pas une histoire qui a duré un an, mais depuis le début du règne de Ahasvéros jusqu'à la fin de l'histoire, il y a environ 11-12 ans qui se passent, n'est-ce pas? Donc, nous sommes à la fin des 70 ans. Donc il y avait, en vérité, pratiquement environ 12 ans. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un calcul qui a été fait à plusieurs reprises au sujet de la destruction du temple. Combien de temps devait durer l'exil? Donc il y a marqué 70 ans. Mais à partir de quand on compte le début de l'exil? Donc déjà... Balthazar, il avait calculé, Balthazar c'est le petit-fils de Nabucodonosor, il avait calculé les 70 ans, il s'était trompé. Et le jour même où il a fait, alors, comme il a calculé les 70 ans et que la délivrance n'est pas arrivée, alors il a dit, Dieu il a abandonné définitivement Israël, donc jamais ils seront libérés, il a sorti tous les objets du temple et il a fait une saouda. Et le soir même, il a été tué. Et il y a eu un renversement de pouvoir, et c'est les Perses qui ont c'est à ce moment-là que l'Empire babylonien est arrivé à son terme. Et là commence la domination des Persomèdes. Les Mèdes et les Perses. Les Mèdes, c'est un peuple qui vit en Perse. C'est une région de la Perse. Alors, quand les Perses ils prennent le pouvoir, il y a, certains, ils s'appellent Cyrus, et les autres, ils s'appellent Darius. Alors les uns c'est des Perses, alors quand il y a le premier roi c'est Cyrus, c'est un Perse, alors le deuxième c'est un Mède, etc. Donc ils ont fait un partage de pouvoir. Et Assuérus, il est dans dans la poursuite de cela. Donc c'est l'empire Perso-Mède. Et lui, Assuérus aussi, il a fait un calcul. Quand il fait le fameux banquet, c'est parce qu'il a calculé la fin de l'exil et qui n'est pas arrivé. Donc, selon son calcul, l'exil est définitif. Et là aussi, il s'est trompé. Le prophète et les Chachamim disent qu'en vérité, il faut calculer, comme la prophétie de Yirmiya, il faut calculer le début de l'exil à la destruction du temple. Et pas parce que Nabucodonosor, quand il est venu à trois reprises. Une première fois, il a exilé les notables. Après, il est revenu, il a exilé le roi. Et après, il est venu à détruire le temple. Donc, à partir de quand? Alors, il y en a qui ont calculé à partir du début de l'empire de Nabucodonosor. 70 ans pour son empire à lui. Début de son règne, de sa dynastie. Bon, ils se sont trompés. Donc, nous, on est à la fin. Donc, en vérité, on est à la fin de l'exil. Vers la fin. Alors, si quand on dit, on parle de fin d'exil, on parle d'exil, mais on parle aussi de délivrance. Alors, généralement, Chachamim disent que, par exemple, quand on parle de Chevelé Mashiach, on dit quand le Mashiach va venir, alors, juste avant la venue du Mashiach, ça va s'aggraver la situation. Il y a une aggravation de la situation. C'est comme les douleurs de l'enfantement. Pendant les 9 mois, bon, ça va plus ou moins, mais quand la femme va accoucher, alors elle sent les douleurs beaucoup plus se faire pressant et elle a des contractions, elle n'est pas bien de plus en plus. Et c'est l'accouchement lui-même, ce qui précède l'accouchement est difficile. Donc, alors on compare cela à cette douleur, à cette difficulté, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Pourquoi juste avant la délivrance, ça s'aggrave? Ça devrait être au contraire. Avant la délivrance, ça commence à s'alléger. Alors, il y a l'Ashgacha, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a l'impression, à cette période-là, surtout quand on lit la Megillah, que la providence... Elle a laissé Israël à son sort, livré à son sort. Il n'y a plus la présence d'Akadosh Baruch Hu qui se fait de manière claire. On est un peu livré à nous-mêmes. Et Aman, il dit quelque part, quand il parle à Achashverosh, au deuxième chapitre, au troisième chapitre, il dit que quand il décide de... il tire au sort. Donc, parce que, pourquoi ça commence l'histoire? Parce qu'il a vu que Mordechai, il se prosterne pas. Donc, on a dit, Haman, tu as vu ce juif-là, lui, Haman, il s'est pas aperçu que Mordechai, il se prosterne pas quand il rentre dans le palais du roi. Et on lui a, il est hautain, il regarde, lui, c'est, il regarde pas les gens, les petits, il regarde pas, il est hautain. Donc, mais il y a quelqu'un qui est venu lui souffler à l'oreille, il dit, tu as vu celui-là, il se prosterne pas. Ils ont dit à Mordechai, pourquoi tu te prosternes pas? Il a dit, moi je me prosterne pas, je suis un juif. Il a dit, tu es un juif, jamais tu te prosternes. Alors ils ont parti dire ça à Haman, et Haman y a marqué qu'il a, il a trouvé méprisant de, c'est pas de son honneur de tuer que Mordechai, il veut tuer tous les juifs. Alors il va, il tire au sort, il tire le fameux Pourim, il tire au sort, il tire les jours, il tire les dates, il tire le mois, il tire les semaines, il faut que ça concorde. Donc quand vous tirez le 13, alors ça tombe un mardi. Il faut que ça tombe. Alors une fois il tire le 13, une fois il tire le mardi, une fois il tire le mois. Il faut que quand on trouve un mois où il y a un 13 et que ça tombe le mardi. Et donc il a vérifié. Donc c'est ça ce qu'il a tiré. Miyom le yom, yahodesh yahodesh, il a tiré les dates. Ça tombe, ça concorde. Ça tombait, c'était super bien. Quel jour il tire le sort? Le 13 Nissan. Il a choisi le mois de Nissan. Donc il tire au sort. Et ça lui tombe. Alors, il a décidé d'aller, de faire un décret. Il va chez le roi, il lui dit, bois un coup avec lui, il lui dit, on va détruire, alors, Hajorosh, de qui il s'agit? Il lui dit, les Bnei Israël. Il dit, mais il faut pas commencer avec eux. Chaque fois qu'on a commencé avec eux, tout celui qui s'est attaqué à eux, il a mal fini. Il dit, ne t'inquiète pas. Yeshno em had mefuzar umforat. Yeshno. Yeshno, il y a un jeu de mots ici. Il y a un peuple éparpillé, dispersé. Dans ton royaume, et tu n'as aucun intérêt à le garder. Alors il dit Yeshno, on fait un jeu de mots, on dit il dort. Yashan, hu. Qui c'est qui a dormi? Qui c'est qui s'est endormi? C'est Dieu qui a dormi. Il dit leur Dieu, il s'est endormi. Il y a une dracha qui dit que Dieu, il s'est endormi. Il y a une dracha qui dit qu'Israël aussi, il est endormi. D'accord? Mais on va dire que ça va de pair. Alors il dit t'inquiète pas, Dieu, il dort. Eux, ils dorment, des mitzvot, mais aussi Dieu, il dort, il s'est endormi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que Dieu, il s'est endormi? Et c'est une réalité, que Dieu, il s'est endormi. Il n'y a pas, c'est vrai, il y a un concept où Dieu, il dort. C'est-à-dire quoi, Dieu, il dort? La surveillance, la shgacha, elle ne se fait pas. On a l'impression qu'elle se fait de loin, de très loin, de très très loin, et que nous, on est livrés à nous-mêmes. Et juste après, et ça, c'est exprès, et juste après, il y a un réveil. D'accord? Si on dort, après on se réveille. On va pas dormir tout le temps. Alors il dort et après il se réveille. C'est quoi ce concept-là? Et ça, ce qui s'est passé aussi en Égypte. Dieu, il dort, après il se réveille. Quand il a dormi, et quand les Juifs, ils étaient oppressés, là, Moshe, il vient chez Pharaon, même avant, alors, et on a dit que Moshe, dès que Moshe il naît, alors ou bien même un peu avant, ça s'est aggravé la situation. Et quand Moshe il est né, ça s'est aggravé encore plus parce qu'ils ont tué les enfants, etc. Donc ça s'est aggravé encore plus. Alors on voit que dès qu'il doit y avoir la délivrance qui pointe à l'horizon, il y a l'aggravation de la situation. Et les Bnei Israël, ils ont commencé à crier, à pleurer, etc., etc. Et après, la délivrance, elle s'est produite. Or, il y a ce concept-là de Dieu, il dort. Ça veut dire quoi, Dieu, il dort? C'est ça ce qu'il faut arriver à comprendre. Et dans quel but? Donc, ma vérité, c'est un concept très, très profond. Le concept de la somnolence. La somnolence de la providence. Alors, ce concept-là, c'est le même concept que Adam et Chava, ils ont été créés un seul être avec deux facettes. Il les a créés un seul homme. Marqué dans la Torah, il les a créés. Vayetzer Adam et Adam. Donc il a créé Vayetzer avec deux yod, ça veut dire qu'il les a créés mâle et femelle en un seul corps. Alors imaginez un homme et une femme dans un seul corps. Donc une face, c'est un homme, une derrière, c'est la femme. Alors lui, il veut aller à droite, elle veut aller à gauche. Alors maintenant, si lui, il va à droite, c'est lui qui commande, alors il va à droite, donc elle n'existe pas. Elle le suit. Si c'est elle qui le tire vers la gauche, alors lui, il n'existe pas. Alors, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas, il n'y a qu'un seul qui existe. Alors, il faut absolument les séparer. Alors, pour les séparer, il va faire une opération chirurgicale. Donc, avant de faire l'opération chirurgicale, il fait l'anesthésie. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il fait l'anesthésie à Adam Arishon. Et donc, il le fait dormir. Vous voyez, il est marqué dans le pasouk, vous voyez, appelle Hachem Tardema, là, Adam, il a fait dormir. Et après, sur l'homme, pas sur la femme. Après, il l'a séparé. Donc après, il les a séparés. À quoi ça sert de séparer? Séparer, c'est pour que tout ce qui concerne l'homme, donc la notion masculine, elle soit donnée à l'homme, tout ce qui concerne la femme soit donné à la femme. C'est la séparation des fonctions, des énergies, qu'elles soient attribuées de manière spécifique. Ça, c'est ce qui va se passer ici pendant, et ça se répète continuellement dans l'histoire. Ça se répète chaque année à Rosh Hashanah. Pourquoi on sonne le shofar à Rosh Hashanah? Pour réveiller, parce qu'il dort. Alors, il faut le réveiller. Alors, quand on sonne, on réveille. On réveille Adam Arishon. Enfin, le concept spirituel de Adam Arishon. Afin que ce sommeil-là, cette séparation, elle est nécessaire pour que la féminité, elle se construise. Ce qu'on appelle la féminité, ça veut dire c'est le concept de la Shekhina, la providence qui gère le monde. C'est la gestion de, c'est la providence, c'est-à-dire c'est la présence féminine de la d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle la providence. On emploie plusieurs termes au sujet de Dieu. On dit Dieu, Akadosh Baruch Hu, Dieu. Hachem, des fois on dit la Shekhina. Alors quelle différence? C'est la même chose ou c'est pas la même chose? Est-ce qu'on dit la présence de Dieu ou on dit Dieu? La présence, il y a Dieu. Il y a Hachem et il y a la présence, il y a la Shekhina. On parle de Shekhina, et c'est pas la même chose. Ce sont deux niveaux de dévoilement qui sont différents. Et la notion, la Shekhina, c'est une notion féminine. C'est-à-dire qu'elle va, cette notion-là, cette entité, elle va se construire, elle va se devenir une autonome, une structure à part entière, parce qu'on lui fait la place. Et c'est elle qui va recevoir les énergies pour les diffuser. C'est ce qu'on appelle l'ashgaha. Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde, pas directement, il dirige par l'intermédiaire de la Shekhina. Alors, ces deux rôles-là, ils sont interprétés dans la scène de la Megillah par Mordechai et Esther. Mordechai et Esther. C'est Esther le personnage principal. Elle est dans le rôle de la Shekhina. Et c'est elle qui est le rôle principal qui mène l'histoire à sa finalité. Donc il y a un sommeil. Un sommeil, une torpeur qui prend la Hashgacha et on a l'impression que c'est on est livré à nous-mêmes. Oui, mais on est livré à nous-mêmes. Et on est. Donc, vous lisez la Megillah, vous voyez que c'est la situation, elle est plutôt désespérée, d'accord. Mais la situation, elle est terrible. Ça veut dire, à un moment donné, on arrive à une situation où l'âme Israël, c'est la seule fois, nous dit Rachamim, que tout l'âme Israël, sans oublier qui que ce soit, tout le peuple dans son ensemble est sous la domination d'un roi et d'un premier ministre qui est un décret qui s'applique à l'ensemble du peuple et il a la possibilité d'appliquer cette sentence. Il a le pouvoir total et absolu d'appliquer la sentence. Donc il y a une xéra sur tout le monde. C'est la seule fois dans l'histoire où il y a une situation pareille. C'est une situation désespérée. Et d'ailleurs dans la Megillah on dit, dès qu'ils ont entendu ça, ils ont déchiré les habits aux quatre coins des provinces. Ils ont déchiré leurs habits, ils ont pleuré, ils se sont lamentés, il s'agissait de la vie ou de la mort. Donc c'est terrible. C'est pire que Hitler, parce que Hitler, il a dominé, et c'est vrai qu'il a fait une catastrophe, mais il y avait des juifs en Amérique qui ne pouvaient pas atteindre En Angleterre, ils ne pouvaient pas atteindre. Il y a toujours eu des Juifs, même s'ils pouvaient conquérir l'Europe et l'Afrique et tout ce qu'on veut, il y a des endroits où il n'a pas pu atteindre. Il ne pouvait pas atteindre Bichlal. Donc il y avait toujours une possibilité à une partie des Juifs de se sauver. Mais là, non. Donc c'est ça le sommeil. Le sommeil, c'est qu'on sent subitement un abandon total. Mais cet abandon total, il n'est pas total. Parce qu'on a, ici deux personnages qui sont déjà en place. On a Mordechai et Esther. Donc, et il faut... La Megillah, elle est écrite Beruach HaKodesh. Elle ne nous raconte pas une histoire. Il faut savoir que la Megillah ne raconte pas une histoire. Il y a des choses dans la Megillah qui, a priori, ne servent pas à l'histoire. Et il y a des termes qui sont employés, des expressions, des versets entiers qui, a priori, ne servent à rien. Mais en vérité, ils servent à nous montrer, si on analyse parfaitement la Megillah qui demande énormément de concentration, d'analyse, on voit que chaque mot, chaque histoire, chaque détail, il est en vérité, à cause de beaucoup, il place le pion. Et c'est pour nous montrer combien le miracle il est énorme. C'est-à-dire, il y a des attitudes qui sont irrationnelles. C'est-à-dire, on ne comprend même pas. On nous raconte, par exemple, je vous prends un exemple, on raconte que Vashti aussi, elle a fait un banquet. Elle a fait un banquet dans les appartements privés du roi. Mais ça ne nous intéresse pas. Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est que Ahasvéroch, au septième jour de son banquet, il a bien bu. La discussion, elle dérape. Et il parle des femmes, de la beauté des femmes. Et à la fin, il leur dit, comment vous pouvez parler de chacun, de chaque peuple, chaque représentant, il parle de la beauté. L'anglais, il parle de la beauté des anglaises. Le suédois, il parle de la beauté des suédoises. Il dit, mais comment tu oses parler devant le roi? Sûrement que c'est la femme du roi qui est la plus belle. La Miss Monde, Miss Univers. Il y en a un qui lui dit, si c'est vrai, amène-la qu'on la voit. Donc ça veut dire, mais ça déjà c'est irrationnel. Comment il peut oser parler, dire une chose pareille? Il aurait dû lui couper la tête tout de suite, c'est un affront. Et après il accepte. Et non seulement il accepte, il se présente nu avec la couronne devant les gens, etc. C'est quoi cette histoire-là? Et elle a des invités, les princesses. Elle fait un banquet pour les princesses. Alors si il va la faire venir et elle va laisser ses invités... Elle va laisser seule les invités, c'est pas joli, ça se fait pas une chose pareille. Alors malgré tout, on voit que le fait qu'elle a fait le michté à l'endroit où elle a choisi de le faire, c'est ça qui va faire que Ahasvéroch il va pouvoir la faire venir. Pourquoi? Parce que c'est la salle où elle se trouve, elle est à proximité, c'est dans le prolongement de là où le roi il se trouve. Donc c'est comme ça qu'il va pas les laisser seules. Donc elles sont dans le prolongement de... Donc on voit que chaque détail, il marque un élément. C'est un élément qui permet de voir comment le miracle se produit. Il n'y a pas de mot employé pour rien. Et donc, Akadosh Baruch Hu, donc c'est ça le sens de la Megillah. C'est que chaque détail qui est mentionné, il participe au miracle. C'est chaque détail du détail qui souligne le miracle fabuleux qui va se passer à la fin. Alors, globalement, Akadosh Baruch Hu, il n'abandonne jamais son peuple. Même dans la situation désespérée où, kaviyachol, la providence, elle dort. Elle n'est pas... Elle dort. Elle somnole. D'ailleurs, le Harizal, il dit, on appelle ça dormita. Dormita, c'est un... Ça veut dire dormir, en vérité. Dormita, ça veut dire dormir. Mais dormir, c'est pas un sommeil profond. C'est un sommeil, une torpeur. Comme il y a marqué dans Adam Arishan, on appelle Hachem Tardema. Tardema, c'est une torpeur, une somnolence. Mais il y a, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui dort. Quand on dort, comment ça se passe? On nous retire la neshama. On nous retire les énergies vitales qui nous permettent de vivre, de respirer, de réfléchir, de parler. Toutes les énergies qui permettent à l'homme de s'exprimer, l'intelligence de l'homme, on lui enlève. On lui laisse juste la respiration. Il est sous perfusion. Et après, on lui rend ça. Donc, c'est ça ce qu'on a retiré. Donc, ces énergies-là, ils sont retirés Pourquoi, dans ce cas-là, ils sont retirés? Pour être donnés à la providence, à la partie féminine. Donc, quand il lui a dit, Aman, il a dit, Elohim shel Elu yashenu. Il dit, leur Dieu, il dort. Donc, ça veut dire, il va pas intervenir directement. Et il dort pourquoi? Il dort pour donner à la providence la possibilité de se construire. Comme Chava, quand Adam Arishon s'est endormi, il a séparé Chava de Adam pour lui donner une stature indépendante. L'important, c'est que Chava, elle soit indépendante, elle ne soit pas collée à Adam et elle le suit. Elle n'a pas d'autonomie après, elle n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, si lui, à Kadosh-Bourou, il a créé un homme et une femme, alors là, l'homme, il est construit, il est façonné d'une certaine personnalité, avec certains aspects, et à l'opposé, il y a Hava qui est totalement différente, qui a aussi une personnalité spécifique. Donc s'ils sont collés, comme on l'a dit, s'ils sont dos à dos, et quand il y en a un qui prend le pouvoir, qui domine, l'autre, il n'existe pas. Donc, il veut que les deux soient indépendants, existants, en quantité indépendante. Ça, c'est la providence. Comment la Hashgaha, elle va se faire? Alors, cette Hashgaha-là, elle ne peut apparaître que s'il y a avant la situation d'endormi. Donc, c'est ça ce qu'on doit, on doit saisir. Donc, le fait qu'il soit dans cette situation-là, qui, a priori, c'est un retrait de la Hashgaha, on sent qu'on est un peu abandonné. Et c'est ça, justement, qui va permettre à la Shekhina de prendre toute son ampleur et de prendre le pouvoir. De prendre la direction de la destinée. Alors, comment ça se passe? Alors, il y a un truc très intéressant. Regardons au début, par exemple, parce que c'est une relation homme-femme ici à chaque fois. On a Hashverosh et Vashti, on a Hashverosh, on a Mordechai et Esther, et on a aussi Esther et Hashverosh. On a cette relation-là. Alors au début, là, qu'est-ce qu'il dit? Quand il y a marqué Gam Vashti, donc on nous raconte au début qu'ils ont fait un festin 180 jours. Pour tous les gouverneurs, les princes, les serviteurs, etc. Et après, il a rajouté 7 jours pour le peuple qui habitait à Suse. Et dans ce peuple-là, il y avait aussi les Bnei Israël qui ont participé. Et là, ils ont versé le vin, chacun il boit le vin à sa convenance, etc. Au bout du 7e jour, donc il dit que Bayom Asheri Ketov Lev Aya Amelech Bayayin. Le 7e jour, quand le roi était bien embaumé avec le vin, alors il a demandé aux eunuques d'amener de faire venir sa femme. Alors comment il est marqué? Il est dit comme ça, Léavi et Vashti Amalka, Lifna Meler Becheter Malchut. Il a demandé aux eunuques d'amener, Léavi, amener, pas de dire qu'elle vienne, de l'amener, qui ça? Vashti Amalka, devant lui et devant les princes qui étaient présents, pour montrer au peuple, aux gens, la beauté de sa beauté. Qui te va marier? Donc il lui a demandé. Comment il lui a dit? Il a dit Vashti Amalka. Donc il lui a mis son nom et après il a dit Vashti la reine. Elle va refuser. Vatemaen Amalka Vashti. Là, quand elle refuse, elle ne dit pas Vashti Amalka, elle dit Amalka Vashti. La reine Vashti. Elle lui refuse. Vatemaen Amalka Vashti, la vaut bidvar amelech. Bien d'assuré. Alors à ce moment-là, il s'est fâché, lui, il a écumé, etc. Il est très en colère. Quelle différence il y a si je dis Amalka Vashti ou je dis Vashti Amalka? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, Quelle différence? Je dis Vashti la reine ou je dis la reine Vashti?
Dans le deuxième cas, elle a toute sa dimension de reine, alors que dans la première.
C'est quoi la première? C'est quoi la deuxième?
Alors la première, celle que vous avez citée.
Quoi? Malka est avant ou après? Ah. Alors si je dis Vashti à Malka, ça signifie?
Vashti à Malka, c'est Vashti qui prédomine sur son caractère.
D'accord. Et si je dis à Malka Vashti?
C'est la reine.
C'est la reine. Alors, qu'est-ce qui est mieux? C'est-à-dire, vous remarquez que Ahasuerus, quand il appelle Vashti Amalka. Il lui dit Pauline la reine. D'accord, par exemple. Il met son prénom avant le titre. Il fait passer la femme avant la reine. Et elle, quand elle lui répond non, elle dit la reine Vashti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Ça veut dire que lui, il veut dire, que tu n'es rien. Toi, tu es juste Vashti. Et tu n'es quelque chose que parce que tu es lié à moi. Donc, c'est moi qui t'ai donné ton statut. Oui, alors ça aussi, c'est parce qu'elle, c'est la petite fille de Nabucodonosor. Donc, elle était de sang royal. Et les Farshim disent que lui, Bichra, pourquoi il s'est marié avec elle? Il dit parce que lui, c'est un roturier. C'est lui qui est un roturier. Il était un simple serviteur. Il travaillait dans les écuries, pas le flonnier. Alors, il était rien. Alors, il a pris le pouvoir par des opportunités. Il est devenu un roi puissant, tout ce qu'on veut. Il a eu de la chance et l'opportunité. Il a su saisir sa chance. Donc, il a grandi son royaume. Il y en a qui disent que, au début, quand il a régné, il régnait sur la Perse, un empire relativement réduit. Et au bout, pendant 3 ans, il a combattu, il a élargi le royaume jusqu'à atteindre 127 provinces. Et c'est pour ça qu'il a fait le fameux festin. Et le festin, il le fait en associant à ce festin tous les gouverneurs, les représentants des nouvelles provinces qui viennent d'être ajoutées au royaume. Donc il est puissant. Alors il lui dit, alors, mais au départ, lui il s'est marié avec elle parce que c'était une fille de lignée royale, une princesse de babylonienne. Alors il lui dit, malgré tout, ta royauté, ta dynastie de tes pères et de ton grand-père, elle a cessé. Donc ils ont perdu la dynastie. Et donc même si avant tu étais une princesse, tu n'es plus que rien du tout. Tu es une roturière, tu es rien. Oui, et c'est parce que tu t'es marié avec moi que tu es devenu quelqu'un. Donc lui, quand il... C'est sûrement qu'il la rabaisse. Il lui dit, viens te présenter nu devant les gens. C'est pas pire que ça. Alors c'est sûr qu'il veut la rabaisser. Et elle est l'objet de son... à son service. Alors elle lui dit, non, moi je suis un Malka Vashti. Malka Vashti, je suis reine de par moi-même. Et le titre, il me précède. Donc elle prend son autonomie vis-à-vis de lui. Donc on voit ici la différence qu'il y a, comment on doit la relation qu'il y a entre eux. Mais lui en fait il regrette après Aman va se faire en fait, quand on lit bien tout le sujet, on voit qu'il se fait piéger à son propre jeu. C'est-à-dire il est dépassé par la situation. Parce que comme il laisse parler les gens les uns et les autres, alors il ne sait pas quoi faire. Alors il prend conseil des uns et des autres, et tout subitement il est dépassé, et il arrive à faire, on le met en situation où il va être obligé de prendre des décisions qu'il va regretter plus tard. On va voir tout de suite. Le fait de l'avoir tué, il regrette de l'avoir tué. Il va s'en mordre les doigts, il va tomber dans la dépression au deuxième chapitre. Mais on voit qu'il est dépassé, c'est-à-dire que s'il veut, parce que c'est toute cette relation-là, elle est par rapport aux gens qui sont autour. Alors c'est par rapport au public qu'il y a. Donc il a ici un monde fou qui est autour de lui. Et à part le simple peuple de Shushan, il y a, n'oublions pas, les préfets, les gouverneurs, les ministres, les nobles du truc, de l'empire, etc. Il y a toutes sortes. Tout un nombre d'individus qui sont incontournables, qui sont nécessaires pour la stabilité du royaume, qui sans eux, le royaume, s'il n'y a pas les administrateurs, les nobles, etc., les bourgeois qui tiennent l'économie, etc., alors son pouvoir, il peut se détruire en 5 minutes. Donc il a besoin de tous ces gens-là. Et devant ces gens-là, il doit se montrer fort, il doit se montrer intransigeant. Alors elle refuse. Donc, en réalité, c'est quoi? Il aurait pu passer l'éponge, elle a refusé. Bon, je comprends qu'elle refuse. Alors les gens, j'aurais dit, ouais, je comprends, ouais, elle a raison. Je comprends, c'était juste une mise à l'épreuve pour voir comment elle allait réagir. Mais elle a raison, c'est le vin qui a parlé, on peut passer l'affaire en silence, elle avait raison. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas quoi faire. Alors, il y a ici les juges et les conseillers. Et il dit, on ne peut pas passer ça. Parce que ce n'est pas seulement contre le roi qu'elle a fauté. Elle a fauté contre le royaume. Alors, c'est le conseil de Haman. Alors, il dit, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, ici, il y a marqué un passouk. Alors, le roi, il est fâché, d'accord. Il est obligé de montrer qu'il est fâché, parce que elle a un peu secoué. Elle a dit, c'est toi, moi, je suis de lignée royale, mais c'est toi qui n'étais qu'un vaurien, qui était un simple employé de mon père. Donc, tu n'es rien. Et si, moi, je suis de lignée royale. Alors ça, il ne supporte pas. Après, il y a marqué, voyons, mes ramères, rachamim, yodé, haïtim. Alors, il réunit les chachamim, yodé, haïtim. Les juges qui savent juger selon les situations. Qui réunit ça, d'amélef, les colodés, d'advanim. Il y a deux, ici, il y a marqué deux choses. Il y a deux tribunaux. Il y a le tribunal, la loi. Imaginez, quelqu'un, il brûle un feu rouge. Non, il a brûlé un feu. On a brûlé un feu rouge. La loi, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi la loi. C'est 90 euros, 3 points, je sais pas quoi. Non. Mais non, ça, c'est la loi stricte. Mais il y a ceux qui savent juger selon les circonstances. Yodai Haïtim. Et ça dépend pourquoi vous avez brûlé le feu rouge. À quelle heure vous avez brûlé le feu rouge? Dans quelle situation vous avez brûlé le feu rouge? Alors, on juge selon la situation. Yodai Haïtim. Ils vont aménager. C'est les gens qui savent, qui sont savants, qui sont intelligents, qui savent discerner que la loi, elle ne doit pas être juste appliquée pour tout le monde de la même manière. Elle s'applique. Et c'est vrai qu'il y a une loi carrée qui est dite, mais cette loi-là, elle doit être adaptée à toutes les situations. Alors, c'est pas la même chose si on a brûlé. Si le type, il conduit une ambulance, il brûle le feu rouge. Ou si il brûle le feu rouge parce qu'il est pressé, au milieu de la journée, il y a plein de voitures, ou bien s'il brûle le feu rouge, à 3h du matin, il n'y a pas un chat, il n'y a personne dans la route. Est-ce que c'est un feu rouge, j'en sais rien, un feu rouge où c'est un carrefour important, ou bien c'est un feu rouge piéton? Alors, on ne va pas appliquer, c'est ça Yodé Haïtim. C'est ça le concept de Yodé Haïtim. Et qui c'est cela? Chacham dit, c'est Issachar. Issachar, la tribu d'Issachar, ils sont particulièrement intelligents. Ils sont appelés Yodai Haïtim. Alors il les convoque. Il leur dit, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous conseillez? Eux, déjà, ils ont vu venir, ils ont dit, nous, ils sont réfléchis, ils sont réunis, ils disent, nous, si on va lui dire, tue ta femme, elle est passible de mort, c'est crime de lèse-majesté. Il dit, demain, il va se réveiller, et il va dire quoi? Si vous m'avez donné un mauvais conseil, j'ai tué ma femme à cause de vous, donc je vais vous régler votre compte. Il dit, si on lui dit, non, pardonne-lui, il peut se fâcher, il va dire, quoi, elle m'a outragé, elle m'a offensé, je lui fais rien. Or, ils lui ont dit, nous, c'est vrai qu'on est des Haïtim, les Bnei Issachar, mais sache, Ahashverosh, grand roi, que depuis le Horban Abayit, depuis qu'on a quitté notre terre et qu'on a perdu le Beth Amikdash, on a perdu notre savoir. On n'est plus compétent pour te conseiller. Et ils sont retirés. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit tout, il n'y a personne qui veut s'engager. Alors, il réunit les sept, il les réunit pas, ils sont présents. Alors, il y a sept personnages ici qui font partie des princes, des ministres qui sont tout le temps devant le roi. Les sept, je sais pas, c'est son gouvernement, je sais pas comment on appelle ça. Qui c'est ceux-là? Et on leur cite leur nom. En fait, les noms qui sont cités, c'est pas des vrais noms. C'est des titres ou bien des symboles de leur personnalité ou de leur fonction. Alors, il y a Karovelav, Karchena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena, Memuchan. Shiva Asare, Parasumada, il est ça être ministre de Perse, du royaume de Perse. Ils sont tout le temps assis devant le roi. Ils sont toujours devant le roi. Alors, comme il a posé la question à la personne qui dit, ils ont commencé à parler. Qui c'est qui parle? Memuchan. Qui c'est celui-là, Memuchan? C'est Haman. Le dernier, il est cité en dernier parmi les sept. Il parle. Il veut se placer. Il dit, c'est une occasion. Il n'y a personne qui parle. Alors moi, je vais parler. Des fois, on dit, c'est l'occasion, l'opportunité. On sait jamais. Donc, il vient. Qu'est-ce qu'il lui dit? Alors lui, c'est lui qui lui donne le super conseil de tuer sa femme. Il lui dit, regardez ce qu'il lui dit. Alors, ils interviennent, mais eux, on leur a rien demandé. Lui, on lui a rien demandé, il parle sans qu'on lui a demandé. Alors, il dit, alors, puisque, que va-t-on faire de Bamalka Vashti, de la reine Vashti? Parce qu'elle n'a pas fait ce que le roi, il a ordonné. Alors, Memoukhan, il dit, il parle devant le roi et les princes, et les ministres. Il dit, c'est pas ça, elle n'a pas seulement offensé le roi. La reine, Vashti Amalka, qui a le col à Sarim et le col à Amim, elle a offensé tous les princes, les gouverneurs, les peuples des différentes provinces. Asher Bechol Médiot, qui constitue l'empire énorme du roi Hachverosh. Ici, on remarque qu'une fois c'est marqué Amalka Vashti, une fois c'est marqué Vashti Amalka. Il dit, quand il veut le savoir, que va-t-on faire? Lui, il lui a demandé, le roi. Et il a dit, que doit-on faire de Malka Vashti? Ça veut dire déjà, il veut calmer l'affaire. Et lui, l'autre, qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà, tu sais pas quoi faire, voilà, la Vashti Amalka, elle l'a offensée. Donc il a mis Vashti Amalka. Donc chaque fois qu'il veut, Aman, il veut, donc il l'a rabaissé. Donc pour se faire bien voir du roi. Il dit donc, elle a commis un crime de lèse-majesté, c'est pas une affaire privée qui te concerne à toi, toi et ta femme, ça concerne l'ensemble du royaume. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, qui est Tzedevar Malka? Si cet exemple-là de la reine, il va être pris, surtout par toutes les femmes, alors elles vont offenser leur mari, devant eux. Et ils vont dire, on peut offenser le mari, quand le roi, ils vont répéter, voilà, le roi, il a dit, il a convoqué la reine, elle n'est pas venue, elle l'a envoyé balader. Alors, ayons massé, tomarna, sarot, parasumat. Aujourd'hui aussi, ils vont faire la même chose, des princesses du royaume. Quand ils entendront comment la reine elle, s'est comportée, ils vont faire la même chose. Et ce sera un scandale dans la société. C'est-à-dire, on va déstabiliser c'est-à-dire quoi, là? C'est-à-dire, là, lui, il va mettre en avant la déstabilisation des couples, je sais pas, les femmes, elles vont se rebeller contre leur mari. Alors, il met la Melertov. Alors, ici, le roi, il accepte. Il était devar malchut, vikate, vedate paron, et velo yavor, asher. Alors, sur ce fait-là, que la reine, elle n'est pas venue, alors, tu décideras. En vérité, ici, Aman, il lui a dit, dans les règles du royaume de Perse, c'était quoi? C'était que le roi, il ne peut pas décider seul. Il faut qu'il réunisse un tribunal, qu'il ait des conseillers, que le jugement se fait en dehors de lui. Il ne peut pas lui prendre la décision. Et lui, il lui dit, non, dit tout, le roi, il peut juger, il a un pouvoir de décision, c'est donné entre ses mains. Et tu peux décider, toi, le roi, de, selon ta propre volonté, de la condamner. Et son roi, et sa place, et Malchuta, et la place de reine, tu trouveras quelqu'un de mieux. C'est parce qu'il manque des femmes qu'on peut une reine, ça peut se remplacer. C'est ce qu'il a fait. Donc, en vérité, ça, c'était absolument idiot de sa part. Ça veut dire, c'est-à-dire que il peut, le roi, il n'aurait pas dû accepter ça. Il dit parce que toutes les femmes et tous les hommes ici présents, ils auraient pu très bien justifier l'attitude de Vashti qui refuse de venir. Pourquoi elle refuse? Ça se fait pas. Tu as trop bu. Vous avez dérapé. Et vous demandez à une princesse de venir nue avec la couronne. Alors, c'est-à-dire, c'est encore plus humiliant. Alors, c'est quelque chose qui se fait pas. Donc, ils auraient dû, c'est-à-dire, lui-même, il aurait pas dû accepter ce conseil. Et on voit qu'il est dépassé par ce qui se passe autour de lui. Donc, il va prendre une décision parce qu'il est flatté et on lui donne la possibilité d'avoir un pouvoir total et absolu. C'est-à-dire, même l'histoire qu'il y avait des juges qui, pour lui, il peut pas décider. À un moment, il dit, mais non, on peut changer à cause de cette histoire-là. Toi, le roi, tu détiens tous les pouvoirs. Tu peux décider de trancher la... Et en fait, vous voyez ici que c'est pas anodin. Parce que quand plus tard, lui, il va être piégé avec Esther dans le deuxième jour du festin, il va lui dire qui c'est celui-là qui a voulu détruire. Il dit c'est lui, celui-là, Aman, Aracha, etc. Et tout de suite, et là, il va dire, voilà la potence qu'il a préparée à Mordechai. Et il va dire tout de suite, pendez-le. Elle commence, de quel droit tu dis pendez-le? Réunis un tribunal. Il dit, non, mais Haman lui-même, il lui a donné le pouvoir. Ce pouvoir de décision et de trancher et de décréter, c'est Haman qui lui a donné. Ici, au début. Donc, c'est, on voit comment les éléments, c'est-à-dire, il y a des choses qui se passent au début qui vont causer la perte de Haman. Ici, il pensait en tirer bénéfice, mais en fin de compte, c'est cela même qui va lui causer sa perte à la fin. Alors, on voit ici que la position de la reine est de... Quelle position elle a dans le royaume? Elle veut s'affirmer. Elle dit, moi, toi, tu fais un festin pour les princes, moi, je fais un festin pour les princesses. Donc, elle s'affirme. Là, qu'on est en opposition. Donc, on a ici deux individus qui sont dans le rôle de la Touma, de la Klipa, ce qu'on appelle la Klipa. Je vous explique. La structure de la Kedusha, elle est dans le monde, il y a Dieu et il y a l'opposé de Dieu. C'est-à-dire, enfin, Dieu, la sainteté, et il y a l'opposé de la sainteté. Il y a un système symétrique. C'est-à-dire, il y a le penche, on a envie de faire les mitzvot, et de l'autre côté, on a envie de faire des averot. On a autant tendance à vouloir être entraîné à droite que par la gauche. On a autant tendance à faire le bien que le mal. Et le système, il doit être en équilibre. Donc, il y a le système de la sainteté, de la Kedusha, dévoilement de la Kedusha, et en face, alors ici, en l'occurrence, on a Mordechai et Esther, masculin, féminin, on a la présence de Dieu, Dieu lui-même, Akadosh Baruch Hu lui-même, et la Shekhina. Et en face, on a aussi le Yetzer Hara, et le Yetzer Hara, il est aussi masculin, féminin. On a deux facettes dans le Yetzer Hara. On dit, Yagon Vanaha. Dans la prière, on dit, Vasermenu Yagon Vanaha. C'est quoi Yagon? Yagon, c'est la douleur, la tristesse. Et Anaha, c'est la souffrance. Un, c'est la force de la Avera. C'est quoi? C'est transporter l'homme dans la, mettre la personne dans la mélancolie et dans l'affliction, le se sentir mal. Ça, c'est la force féminine. Et le fait d'avoir le désir de faire du mal, de faire une avera, c'est la force masculine. Il y a deux choses. Il y a dans l'essentiel de la avera, il y a deux averot capitales qui sont essentielles. C'est Avodazara, l'Avodazara, l'idolâtrie, et il y a les relations interdites. Il y a une troisième qui est le meurtre, mais le meurtre, il n'est qu'une conséquence de cela. Mais il y a la Avodah Zara et les relations interdites. Adam Arishon, quand il a fauté, il a mangé le fruit interdit, et après, bon, Chachamim me disent, il a nié l'essentiel. Kafar Baika. En fautant, il a fauté, il a nié l'essentiel. Donc il a fait comme Avodah Zara. Mais qu'est-ce qui a fait que ça l'a amené à cela? C'est le désir de jouir de la matérialité. Donc c'est manger, le da'at, c'est-à-dire ici, il voulait manger le fruit, en vérité, c'est un acte sexuel. C'est comme un acte sexuel, c'est la même chose. L'acte sexuel, il est appelé da'at. On a marqué dans la Torah à plusieurs reprises, « Vayeda Adam et Hava Ishto ». C'est-à-dire l'acte sexuel, l'acte d'union, il est appelé da'at. Et l'arbre lui-même, il s'appelle « Et Adat ». Donc il y a une relation entre le plaisir physique, la jouissance matérielle et la relation. Donc c'est la même chose, c'est assimilé. Et donc il y a deux facettes dans la Avodah Zara. Il y a la Avodah Zara et la sexualité, le plaisir de ce monde. Ça c'est une facette masculine, une facette féminine. La même chose. Alors, on va retrouver ça dans toute l'histoire. On verra, si on a le temps, on verra ça. On retrouve ça aussi à plusieurs reprises. Alors, c'est Ahasvéros, il est mauvais par essence. Les Chachamim lui disent, il est pire que Haman, parce que il est Ahvaros. Il est le frère et la tête du mal. Mais Haman, c'est lui qui tire les ficelles. Et Haman, bon, qui c'est ce Haman-là? C'est Amalek. Qu'est-ce que c'est Amalek? Qu'est-ce que c'est Amalek? Amalek, c'est Esav. Amalek, en vérité, c'est le descendant de Esav. Amalek, sa force, c'est Esav. Et on va voir que dans la problématique ici, on a deux facettes aussi. On va retrouver les deux fautes. Pourquoi la génération va être, si Aman, il a signé un décret et le roi, il a mis son sceau et que ce décret-là était applicable et que on l'a jamais annulé ce décret. Jamais ce décret n'a été annulé. Dans les lettres que Ahasvérosh, il va faire écrire par Esther et Mordechai, on n'annule pas le premier décret. Le premier décret que de détruire les Juifs, il est écrit, il n'est pas annulé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les Juifs, ils peuvent se défendre. C'est ça la deuxième lettre de Esther. Les Juifs, ils peuvent se défendre. Mais le premier décret, il est figé. Ce qui a été écrit, il est définitif. Pourquoi les Juifs, ils ont mérité ça? Quelle avéra ils ont fait? Pourquoi il y a un tel décret de mort, qui n'est, jusqu'à aujourd'hui, il est applicable. Il est applicable, c'est-à-dire il n'a jamais été annulé, ce décret-là. Quelle avéra ils ont fait? Alors la question, la Gemara, elle dit, les élèves, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, dis-nous, Rabbi, pourquoi cette génération-là était passible d'extermination? Alors il leur a dit, dites-moi vous. Alors eux, ils lui ont dit, parce qu'ils ont bu le vin à la table de Assuérus à Shushan, les 7 derniers jours du festin. Alors il dit, très bien, il dit, si c'est comme ça, pourquoi tous les Juifs du royaume, ils doivent mourir? C'est seulement les Juifs de Shushan qui devraient mourir. C'est eux, les autres les Juifs qui sont au fin fond. Il y a un immense empire, 10 000 kilomètres de distance. Ils savent même pas ce qui s'est passé là-bas à Shushan. Donc eux, ils n'ont pas bu le vin, ils n'étaient pas présents. Pourquoi ils doivent mourir? Alors d'accord, ça marche pas. Alors ils lui ont dit, dis-nous toi, Rabbi. Et il leur a dit, parce qu'à l'époque de Nabucodonosor, Nabucodonosor, il a fait une grande statue, érigé une grande statue dans Bikaat Dura, dans une grande vallée. Et il a mis là-bas le tis du Kohen Gadol dans la bouche de la grande, énorme statue. Et il a convoqué des délégués de toutes les nations. Alors il y avait aussi des Juifs. Alors à chaque fois qu'il faisait le sifflet, il sifflait et il faisait un drapeau, tout le monde devait se prosterner devant l'idole. Mais dit les Juifs aussi, ils se sont prosternés. Il dit, parce que s'ils ne se prosternent pas, ils vont se faire tuer. Encore, ils sont prosternés. Il dit, à cause de ça, tous les Juifs, ils sont passibles de mort. Alors les élèves disent, ah, mais ça ne marche pas, Rabbi, pourquoi? Il dit, eux, ils ont fait semblant, ils n'ont pas vraiment prosterné, ils sont prosternés devant la statue parce qu'ils avaient peur, mais vraiment, dans leur fort intérieur, ils ne voulaient pas se prosterner à la statue. Il dit, oui, c'est vrai, mais Dieu aussi, il a fait semblant. Dieu aussi, il a fait semblant. Vous vous dites qu'eux, ils sont prosternés, ils ont fait semblant. C'est vrai, eux, ils ont fait semblant. Ils se sont prosternés, mais au fond, ils se sont prosternés par crainte du roi, mais ils n'ont pas servi. Mais Dieu aussi, alors, il a décrété un décret qui était en apparence. Il a fait semblant de leur faire un décret. On voit ici, quoi, que le décret ici, il est illusoire, en vérité. Il est illusoire. C'est un décret virtuel. Et quelle faute il y a? Il y a deux fautes. Il y a Avodah Zara et ils ont bu le vin. Et dans ce vin-là, le festin, et c'était une débauche terrible. C'est-à-dire, il y avait des prostituées, des trucs là-bas. Donc, il y avait la débauche là-bas. Dans le Midrashim, c'est marqué. Donc, il y a deux avérotes ici. Il y a l'avéra, toujours les mêmes. L'avéra de Gilo et Rayot, la débauche. Et d'autre part, l'Avodah Zara, qui sont liées. Ils correspondent d'une part à Assuérus et d'autre part à Vashti. Parce que ne croyez pas un instant que Vashti, elle refuse de venir parce qu'elle trouve que c'est offensant. Pourquoi elle refuse de venir? Parce que Ramédis, elle a eu des eczémas tout le corps. Alors elle était pas, si elle se présente toute nue devant les gens, c'est pas à son avantage. Mais en vérité, si elle était en bonne santé, elle serait venue. Donc elle refuse de venir, non pas parce qu'elle a des midot tovot, ou elle est tzadéquette, ou bien elle fait attention à la tzinyout. Elle n'est pas venue parce qu'elle n'était pas à son avantage. Donc ça, c'est les deux avérotes qu'on voit. C'est les deux situations. Donc c'est ça, tout ça. Qui est-ce qui tire les ficelles de tout ça? Et c'est toujours le même. C'est Aman, toujours Aman. Aman, il tire toujours les ficelles. Esav et Yaakov, ils sont liés. Ce sont deux frères jumeaux. Comprendre que les destinées de Esav et de Yaakov sont liés. Parce que tous les deux, ils n'ont pas d'existence dans ce monde. Ils ont une existence identique. Abraham, il n'a pas d'enfant. Il ne peut pas avoir d'enfant, Abraham. D'accord, il n'a pas d'enfant. Alors il dit, Dieu il lui dit, tu vas avoir une descendance. Il dit, j'ai vu dans les étoiles, je n'ai pas d'enfant. Il dit, d'accord, dans les étoiles, tu n'as pas d'enfant. Il le prend, il le sort des étoiles, il lui dit, au-dessus des étoiles. Donc c'est une intervention divine spécifique qui fait que Abraham, il va avoir des enfants. Après, il a Isaac. Mais Isaac, il se marie avec Rifa, il vit 20 ans avec elle, ils sont tous les deux stériles. D'accord, ils n'ont pas d'enfants. Donc comment ils ont des enfants? Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est un miracle. Donc quels enfants ils ont? Donc c'est pas dans le concept rationnel qu'ils ont des enfants. C'est un concept, ils ont des enfants de manière une intervention providentielle, en dehors de la rationalité. Qui c'est les enfants? Yaakov et Esav. Ça veut dire Yaakov, il vit pas dans le monde de la matérialité, il a pas d'existence. Il a une existence, une destinée hors de la rationalité. Et Esav, identique. Ils sont liés. Maintenant, qui sait? Alors, pourquoi ils ont deux? Ils devraient avoir un seul enfant. Et ça, il est là pour être le correcteur de Yaakov. Il dit, quand il vient pour recevoir les brachot, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Yitzhak, il veut bénir Esav. Il veut bénir Esav. Mais en vérité, il va bénir Yaakov. Pourquoi il va bénir Yaakov? Parce qu'il va lui piquer les brachot. Alors, donc, maintenant, il le bénit. Il bénit, effectivement, il bénit. La bracha, elle est donnée à... La bracha, elle est donnée à Yaakov. Mais la kavana de la bracha, elle est pour Esav. Donc, c'est une bracha virtuelle. Donc, toute son existence, elle est virtuelle. Esav, il a une existence virtuelle. Il n'a pas une existence réelle. C'est ce que Rabbi Shimon, il a répondu aux élèves, il leur a dit, Dieu aussi, il a fait semblant, mais l'ifnim, en apparence, c'était une xéra, mais la xéra, elle ne s'est pas réalisée. C'est-à-dire que toute la possibilité des sables d'agir, elle est virtuelle. Elle dépend de quoi? Elle dépend de la bracha de Yitzhak qu'il a donné à Yaakov. Il dit, tant que toi, Yaakov, tu es en haut, et ça, il peut rien te faire. Si toi, tu tombes, tu te relâches, alors Esav, il prend le pouvoir. Mais en vérité, Esav, il n'a pas une vie de lui-même. Il vit de Yaakov. Si Yaakov est en haut, Esav, il disparaît. Si Yaakov, il dégringole, alors Esav, il apparaît. Donc ici, il apparaît Aman, il apparaît parce que c'est les Juifs qui lui ont donné le pouvoir. C'est les Juifs qui se sont laissés aller et qui ont fait des fautes, qui vont lui donner le pouvoir. Donc on voit ici que tout ça pour expliquer la relation qu'il y a entre Vashti et Ahasvéroch. Et qui c'est qui tire les ficelles? C'est Aman. En fait, Vashti et Ahasvéroch, ils sont les marionnettes, c'est les outils, les objets par lesquels Aman il veut arriver à sa finalité. C'est quoi? C'est qu'il veut détruire Am Israël. Pour que lui, il existe. Il est obligé d'éliminer Israël. Si Israël, tant qu'Israël existe, lui, c'est ce qu'il a dit, il ne s'est pas prosterné. Il a vu, il y a un qui ne se prosterne pas. Il dit, ça veut dire quoi, il ne s'est pas prosterné? Pourquoi il lui en tient rigueur? Lui, il est au summum de sa gloire. Et il ne regarde même pas. C'est-à-dire, des fois, des gens, ils ne regardent même pas. C'est-à-dire, le mec, il est transparent. Comme il dit, Monsieur Al-Sharim, un type une fois, il m'a dit, il est quelqu'un de très riche, il s'est retrouvé juste à Paris devant... Et le chauffeur, il ouvre une Bentley, ou je sais pas, une super bagnole, il y a un type qui sort, le mec il était devant. Il m'a dit, il est passé devant moi, ce type-là, on dirait que j'étais transparent. Il m'a pas vu. Mais j'étais à 50 centimètres de lui, par hasard, il me trouvait là, il m'a pas vu. Ça veut dire, c'est même pas c'est un meuble, on dirait c'est un arbre ou un banc. Il regarde pas. Alors imaginez Aman, il est au summum de sa puissance. Et un petit juif là, qui est là, il se... Mais c'est même pas un chat ou un chien, ou une souris, je regarde même pas. Et malgré tout, il va vouloir le tuer. C'est bien vrai, ça te fait quoi? Même pas ça te chatouille. Ça doit pas te déranger. Il dit non, parce que si lui, il est debout, ça veut dire que moi, je suis pas debout. C'est ça, Aman. Aman, il dit, si Mordechai se tient debout, et il se baisse pas, ça veut dire que moi, je suis pas debout. Parce que si lui, il est debout, moi, je suis par terre. Si moi, je suis debout, lui, il doit être couché. Donc, ce type-là, tant qu'il est debout, c'est ce que la Gemara dit, si tu vois que Jérusalem et Rome, ils sont construites les deux, c'est pas possible. Il dit, si Jérusalem, elle est détruite, alors Rome, elle est construite. Si Rome, elle est construite, alors Jérusalem, elle est détruite. Ça va pas ensemble. Et ça, avec Yaakov, ça peut pas être les deux au summum de leur pouvoir. Si un vit de la faiblesse de l'autre, c'est pour ça qu'ils veulent détruire. Il dit non seulement lui, mais tout Am Israël, parce que ça lui fait rien, Mordechai seul. C'est pour ça qu'il a dit, c'est méprisant pour moi de tuer que Mordechai. C'est la raison pour laquelle c'est cette opposition-là qui se fait. On trouve la même notion, la même chose, comment la Gemara dit, il y a un Midrash qui dit, qu'au moment où Salomon il s'est marié avec la fille de Pharaon, alors il y a l'archange Gabriel, il a pris un roseau, et il est descendu du ciel, il l'a planté au milieu de la mer. Et c'est autour de ce roseau-là, s'est formé un peu de terre, une petite île. Et après, ça s'est agrandi, et c'est devenu une grande ville. Krar Gadol chez le Romi. Alors c'est quoi ce que Rami veut nous dire? Il veut dire que Romi qui va détruire le Beth Amikdash, c'est-à-dire déjà lui à l'époque de Shlomo qui construit le temple, il se marie juste à ce moment-là, il se marie avec la fille de Pharaon. Déjà, il a planté le roseau sur lequel va se construire Rome qui va détruire le temple. Comment ça marche? Il dit parce que Rome, il n'a pas d'existence. Esav, il n'a pas d'existence. Et d'ailleurs, c'est ça le roseau, le canet. C'est quoi? C'est un roseau. C'est comme ça fait allusion à la trachée. Il respire, c'est par là qu'il respire. C'est-à-dire que c'est Shlomo HaMelech qui lui a insufflé l'existence. Par quoi? Par la Avera qu'il a fait. C'est ça toute la relation qu'il y a entre le conflit qu'il y a entre Esav et Yaakov. Il se poursuit là. Il y a toujours l'histoire du vin. Bon, on va pas rentrer, mais même là-bas, chez Yaakov, il va proposer à Yitzhak du vin. Il va lui présenter du vin. Le vin, alors le vin, c'est quoi? Et le vin, la Gemara, elle dit, celui qui voit du vin dans le rêve, alors il y a deux possibilités. Il y a du vin, il y en a qui boivent le vin et ça leur fait du bien. Il y en a qui boivent le vin et ça, ils perdent leurs facultés. C'est des mauvaises conséquences. Alors c'est quoi? Il dit, ça dépend le vin. Il y a du bon vin. Le vin, il fait allusion à Veyaïn, Issamah, Leva, Venoche. Ça fait allusion au vin qui est gardé pour les tzadikim, la fin des temps. Ayaïn, Meshumar, Ba'anava, il va être gardé pour les justes à la fin des temps. Il est gardé dans le raisin. Même pas du vin dans la cuve, c'est dans le raisin. Alors, on boit de ce vin-là, il est propre, il est limpide, il a un goût extraordinaire. Ça fait allusion à la... Il fait que l'homme, il va se sentir joyeux, il le fait planer un peu, il le transporte vers les hauteurs. C'est l'extase et il va atteindre la félicité et la prophétie. Mais il y a du vin qui va saouler, il y a du vin qui va avoir de mauvaises conséquences. Quand il n'est pas raffiné, il n'est pas propre, il y a des lits, ça c'est le vin de Esav. Le vin qu'ils ont bu là, ils ont bu du vin, le vin il était de cet ordre-là. Mais le vin que nous... Alors, c'est pour ça que nous, on boit à Purim, qu'est-ce qu'on fait? On boit du vin. On boit du vin à Purim. Donc, il y a une mitzvah de boire. Quel vin? C'est pas bien de boire. Il dit, non, mais toi, tu vas boire du bon vin. Le vin que les tzadikim, ils boivent et qui a marqué, mais Sameach Elohim va Adam. Le vin, il réjouit Dieu et les hommes. Donc, il y a une notion d'être transporté dans l'extase. Il est emmené vers, comme si il arrive à atteindre l'extase, la félicité, la prophétie. Donc il est transporté. C'est ça le vin. Ce vin-là, Yaakov va donner à Yitzhak. Et c'est ça le vin qui va être gardé pour les tzadikim à la fin des temps. Et le etzadara tovara aussi, c'était du raisin. Donc Adam Arishon, il a bu du vin. Pour comment il a fauté? Il a bu du vin. Et le vin, de quel vin il s'agit? Alors, c'est le vin qui était un peu mélangé. Donc, il y a eu du bon et du mauvais dans ce vin-là. Donc, c'est pas terrible. Mais s'il avait bu du bon vin, et le bon vin, il saoule pas. Donc c'est ça la relation. Et plus loin, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que Mordechai, il va être étonné que Esther, elle a été choisie pour être dans le palais du roi. Il dit, comment c'est possible qu'une femme pareille, elle va être choisie pour être la femme du roi, de ce rachat-là? Comment c'est possible? Alors, Mordechai, il était certain que ça, c'est un signe de la providence, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, il était certain qu'il allait se passer quelque chose. Pour ça que tout le temps, il allait la visiter. Il essayait de voir quel signe, qu'est-ce qui se passait. Et quand il sait le décret, donc le 13, Aman, il a fait le décret, et il va chez Ahasvéros. Ahasvéros lui dit, fais ce que tu veux, signe. Donc le 13, il va envoyer les messagers aux quatre coins du royaume. Donc, et ils vont porter les missives, comme quoi le 13 Adar, dans 11 mois, soyez prêts dans 11 mois pour exterminer les Juifs. Et Mordechai, il le sait. Comment il le sait? Alors, il y a Dimitri Rachim qui dit, le prophète, Rachid, on lui a dévoilé ça, c'est Elia Onavi qui lui a dévoilé, etc. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Esther, tu vas chez le roi. Et Esther, à ce moment-là, elle lui dit, c'est pas possible d'aller chez le roi parce que je n'ai pas été convoqué depuis un mois, donc si je vais, c'est au péril de ma vie. Alors, il lui dit, Mordechai, il lui dit, si tu crois que tu vas t'en sortir, toi, toute seule, tu vas te taire, tu vas pas agir et tu vas t'en sortir, sache que la délivrance, le salut parviendra aux Juifs d'un autre d'ailleurs. Et toi, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Donc il lui met la pression. Alors elle lui dit, va faire rassembler tout le monde, on va jeûner 3 jours. Donc à Suse, ils ont jeûné le 13, le 14, le 15. Mahloket, il y a 2 versions. Il y en a qui disent qu'ils ont jeûné le 13, le 14, le 15. Mais qui disent, ils ont jeûné le 14, le 15 et le 16. Bon, peu importe, il y a deux. Comment on calcule les jours? Est-ce que c'est des jours entiers ou des jours où le jour, ils ont. Puisque c'est le matin, il a su. Donc le matin, très tôt, ils ont fait les lettres. Donc le jour même, le 13, il n'était pas entier. Bon, peu importe. En tout cas, cette année-là, ils n'ont pas fait Pessah. Ils ont jeûné. 3 jours. Même le jour de Pessah, ils ont jeûné. Alors, le Pessah, c'est le 14, le jour du 14, la nuit, c'est le 15. Donc, ils n'ont pas fait le CDR. Donc, ils étaient en jeûne. 3 jours d'affilée, 72 heures de jeûne. Hein? Oui, ils n'ont pas fait Pessah cette année-là. Alors, elle va. Alors, elle dit, jeûner 3 jours. C'est elle qui décrète jeûne. Donc, c'est elle qui décrète et elle dit, j'irai. Et je me présenterai. Alors là, quand le troisième jour... plus loin, il y a marqué qu'au troisième jour, elle se présente dans le parvis qui ouvre la cour. Voyez, Bayom Hashilishi, Vatishba, Esther Machout. Donc, le troisième jour de jeûne, alors c'est le 15. Normalement, c'est le 15. Bon, il y a deux théories. Il y en a qui disent dans les Chazal, il y en a qui disent le 15, il y en a qui disent que c'est le 16. Peu importe. Alors, elle se présente. Va-t-il bâche Esther Malchut? Donc, traduction littérale, Esther, elle s'est habillée des habits de roi, de reine, avec les plus beaux habits de la royauté. Mais les Chachamim disent non, c'est pas ça. Elle s'est habillée de la royauté céleste, du Malchut, de la souveraineté céleste. Elle est dans le rôle de la Shekhinah. Elle est dans le rôle de la Shekhinah qui va défendre, s'avancer pour défendre Am Israël. Elle est dans le rôle de la providence. C'est-à-dire, c'est elle qui intervient pour, va-t-il bâcher Esther Malchut, Amod Bahasar Betamelech Apinimit, Nochar Betamelech. Donc, elle est dans la cour. Il y a au fond la salle où le roi, il est sur le trône. Il y a une salle énorme. Et il y a un couloir, et elle est dans la cour intérieure. Et le roi, c'est tout ouvert, et la voit. Non, et maintenant, il faut pour qu'elle puisse avancer, il faut qu'il lui tende le sceptre. S'il lui tend le sceptre, elle avance. S'il lui tend pas le sceptre, elle lui coupe la tête. Alors là, il y a marqué, Vaïkirot Ameler et Esther Amalka, Omedet Bahaser. Alors, elle a trouvé grâce à ses yeux, il lui tend le sceptre. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaïoshet Ameler et Esther Amalka, et Tcharbit Azav, Asher Biado, Vatikra Vester, Esther s'est approchée, elle a touché le bout, l'extrémité du sceptre. Alors là, Stam ici a marqué un truc, il y avait marqué dans la Gemara, combien de distance il y avait entre le lieu où il se trouvait à Hachverosh et elle où elle se trouvait Esther. Alors il y a deux marloquettes, il y en a qui disent 60 coudées, il y en a qui disent 200 coudées. Et dans tous les cas, la Gemara elle dit que le Kadosh Baruch Hu il a fait un miracle, que le sceptre, il a tendu le sceptre, et le sceptre il s'est rallongé, d'accord? Donc le sceptre il s'est rallongé. Donc si, la question qu'il y a, que si il s'est rallongé, et il est arrivé jusqu'à chez elle, donc si on dit 60 coudées, donc lui il était assis là-bas, il tend le sceptre, et le sceptre, il arrive jusqu'à chez elle. Alors, pourquoi il y a besoin de marquer qu'elle s'est avancée pour toucher l'extrémité du sceptre? Il n'y a pas besoin. Il est arrivé jusqu'à chez elle. Elle touche direct. C'est pas logique, d'après cette explication-là. Vatikra avec Esther. Esther s'est avancée. Et elle a touché l'extrémité du charbit. Alors, comment ça marche? Alors, Rab Shimshon d'Ostropoli, il explique ça comme ça. Il dit que on prend la même chose, parce qu'ici c'est précisé. Voyosh et Ameler l'Esther et Charbit Azahav Asher Beyado. Il a tendu à Esther, la reine, le sceptre d'or qui était dans sa main. Asher Beyado. Alors cette phrase-là, Asher Beyado, ça sert à rien. Parce que s'il lui tend le sceptre, il est dans sa main. Et on retrouve cette histoire-là plusieurs reprises dans la Torah. On dit quand Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, Ka et Matecha, Ve'arev et Matecha, Asher Be'adecha. Il lui dit à chaque fois, il dit, prends le bâton et élève le bâton avec qui est dans ta main et tape le rocher, tape le Nil. Je sais pas, à chaque fois, il lui dit tape. On retrouve ça quand il a tapé le rocher. Et Asher Be'adecha. Et là-bas, quand il tape avec le rocher, quand ils sont sortis de la mer pour faire l'eau, il lui a dit tape avec le rocher, avec le bâton. Il lui a pas dit qui est dans ta main. Mais quand il tape la mer, il lui dit tape avec le bâton qui est dans ta main. Alors il dit Rabbi Shimshon d'Ostropoli, il dit que dans le bâton de Moshe, comment il faisait les miracles? Parce qu'il y avait le nom de Dieu, il a plusieurs compositions. Alors il y a une partie qui, normalement, il a le bâton comme ça, et l'extrémité, alors le nom de Dieu qui est à l'extrémité, c'est le truc normal, quand vous attrapez le bâton, alors au bout, l'extrémité, il y a le nom de Dieu normal, Yotke Vavke, Midat Hesed. Mais quand il veut faire le taper le Nil, par exemple, donc il veut transformer, punir, alors c'est l'autre extrémité, il faut que le nom de Dieu il soit à l'envers. Il dit, quand on veut punir, le nom de Dieu, Yotke Vavke, quand il est dans cet ordre-là, alors il va produire la miséricorde. Mais s'il veut taper le Nil et faire que le Nil, il va devenir du sang, alors il faut que le nom de Dieu soit à l'envers. Le He, Vav, He, Yod, à l'envers. C'est Midatadine. Quand le nom de Dieu, il se compose différemment, alors quand les lettres He, ils sont devant le Yod, c'est la rigueur. Alors, il va taper avec elle. Alors, il lui a dit, généralement, la partie avec laquelle, c'est celle qui est dans ta main, c'est quand, en bas, il y a le nom de Dieu, He, Yod, He, Evav. Il dit, avec ça, tu vas taper le Nil. Il dit, avec le bâton qui est dans ta main. La partie que tu tiens généralement dans la main. D'accord? Alors, quand il dit dans la main, c'est la partie avec laquelle il tient. Il dit, mais quand il veut taper pour le rocher pour faire sortir l'eau. Alors il dit, prends le bâton et tape. Il dit pas avec la main qui est dans ta main. Ici aussi la même chose. Le sceptre, il est dans la main du roi. En général, donc il y a une partie que la partie précieuse, il tient dans sa main. Et quand il tend le sceptre aux gens, alors il tend l'autre partie, l'extrémité. Mais quand il a vu Esther, alors il a voulu lui montrer l'amour et l'importance qu'elle avait. Il lui a tendu la partie qu'en général il avait dans sa main. Donc il a retourné le sceptre, il lui a tendu, c'est pour lui montrer combien c'était Haviva Alav. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu ça. Elle a dit, mais moi je vais lui faire kavod de roi. Elle dit, je touche pas l'extrémité qui est dans sa main en général, je vais faire comme tout le monde. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a avancé jusqu'au bout. Et elle a touché le sceptre qui est généralement tendue comme étant à l'extrémité. C'est ça le pshat, pour ça, pourquoi elle s'est avancée. Pour montrer l'importance. Donc là, elle se trouve devant le roi. Et ici, Chachamim, ils disent que il faut me dire à quelle heure il faut arrêter. Et Chachamim, ils disent, elle était debout dans le Hatser. On met d'être bas Hatser, l'ifne Hatser bet Amelech. Il dit, Chachamim, dit, elle faisait ici, c'est comme ça qu'on se tient dans la Hamida. En fait, elle était debout, elle fait debout, bas Hatser, devant le roi. Alors c'est allusion. Allusion quand on se tient dans la prière devant un Kadosh Baruch Hu. Elle faisait la prière. Comment? Comme la Hamida. Il y a marqué qu'elle était debout. Et là, elle prie. Mais elle prie qui? Elle prie devant qui? Devant un Dieu, le roi. Chaque fois qu'elle marquait le roi, c'est Dieu. Elle prie à Dieu, pas devant Hachverosh. Elle était devant Hachverosh, mais c'est... Elle prie Dieu. Elle prie Dieu. Et à ce moment-là, cette prière-là, elle va produire justement que Hachverosh, il va lui... Donc on voit ici déjà que la Shekhina, elle s'est réveillée. Comment, à quoi c'est dû? Parce que le réveil d'en bas. Il dit qu'eux, lui, Aman, il a dit, Dieu, il dort. Leur Dieu, il s'est endormi. Il dit, pourquoi il s'est endormi? Parce qu'eux aussi, ils sont endormis. Ça va de pair. Ou bien, Dieu, il s'est endormi. Nous, on s'est endormi parce que Dieu, il s'est endormi. Ou bien, Dieu, il s'est endormi à cause de nous. Ou bien, c'est l'inverse. Peu importe. En tout cas, c'est quoi endormi? Endormi, c'est comme ça. C'est que les gens, ils faisaient la Torah, les mitzvot, c'est sûr. Ils n'ont pas arrêté. C'est pas... Même s'ils étaient un peu relâchés. Comme les Juifs partout, à toutes les époques. Et dans tous les pays, même quand il y a eu un peu d'assimilation, on s'est relâché, etc. Mais il y a toujours eu des gens qui faisaient la Torah, les mitzvot. Et je ne sais pas, quand les Français on a été attirés par la culture occidentale, peu importe. Alors il y a eu relâchement dans les études, dans l'accomplissement des mitzvot, tout ce qu'on veut. Il y a toujours eu des gens qui étaient fidèles, qui étaient religieux, qui étaient Yirei Shamayim, étudiaient la Torah. On va pas me dire que tout le peuple il a abandonné la Torah. Bah, même si dans une ville ils en abandonnent tous, à côté il y a des gens qui vont pratiquer. Pas possible. Là aussi, la même chose. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les gens sont tombés dans la routine. Les gens, ils accomplissaient la Torah et les mitzvot de manière routinière, sans ferveur, sans entrain. C'est quoi dormir? Il vient à la synagogue, il dort. On fait la religion comme ça. On est endormi. Par habitude, par routine. La mitzvah, elle n'est pas avec ferveur. Donc, automatiquement, ça va causer l'endormissement de la providence. Alors, quand ils se sont réveillés, ils ont vu qu'ils n'avaient plus le choix. C'est-à-dire, ils ont vu que leur vie en dépendait, qu'ils risquaient tous d'y passer. Donc là, c'est terrible, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que quand on voit qu'on n'a pas d'autre solution, alors là, on va faire tchouva. On n'a pas d'autre solution. Si on est suffisamment intelligent de comprendre qu'on n'a pas d'autre solution. Alors, ils vont faire tchouva. Donc, ils ont fait tchouva. Ils savaient que c'était leur heure est arrivée. C'est-à-dire, ils savaient que c'était catastrophique. Donc, ils ont jeûné. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un, il va se lever. Le rabbin de France, il va dire, on va faire un jeûne 3 jours. Je sais pas quoi. Et combien qu'ils vont jeûner? Ils disent, de temps en temps, ils envoient, on fait un jeûne. Il y a combien? 1% qui jeûne. Qui c'est qui va jeûner? Je dis, mais si les gens, ils disent, sachez que votre vie en dépend. Oui, mais c'est-à-dire, il faut avoir conscience de ça. Donc là, les gens, ils ont jeûné, toute la population a jeûné. Et ailleurs dans la Megillah, il y a marqué que même s'ils n'ont pas décrété dans les provinces, les gens d'eux-mêmes, ils ont déchiré leurs habits, ils se sont assis par terre, ils ont jeûné, ils ont prié, les gens d'eux-mêmes. Personne n'a décrété. Dès que les gens ont entendu la xéra qui planait sur leur tête, d'eux-mêmes, ils ont fait tchouva. Il y a marqué que là où on entendait la xéra qui arrivait, enfin la nouvelle de la xéra, alors les gens ils se sont investis dans la tchouva. Donc ça qu'est-ce qu'on voit? Ça a renversé l'affaire. L'affaire elle s'est renversée. Ça a réveillé la providence. Et là Esther elle a un pouvoir parce qu'Esther aussi elle peut se présenter devant le roi et comme elle a dit à Mordechai. Et arrive sa vie, elle peut se faire tuer, elle peut ne pas trouver grâce aux yeux du roi. Et là, elle trouve grâce aux yeux du roi. Donc ça, c'est providentiel. Et non seulement ça, et elle tire les ficelles, c'est-à-dire elle agit avec intelligence, elle prend le temps. Elle invite Aman, elle lui dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle dit, voilà, je t'invite à boire un banquet. Et dit, on invite Aman aussi. Alors l'autre, il se sent plus. Et là, le roi, il dit, qu'est-ce que tu demandes? Il dit, non, je demande rien, demain. Fais-moi plaisir, demain. Et alors, elle refait le banquet le lendemain. Mais pendant la nuit, il y a marqué que la fameuse nuit où le roi ne trouvait pas le sommeil. Mais comment, toi, tu m'as dit, le roi, il dormait. Le Dieu, il dormait. Tout d'un coup, il trouve. C'est qui le roi? C'est Dieu. Dieu, il ne trouve pas le sommeil. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que Dieu, il s'est endormi. Donc, tout d'un coup, il s'est réveillé. Dieu, il s'est réveillé. La providence, elle s'est réveillée. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont fait tchouva. Automatiquement, ils ne trouvent pas le sommeil. Ils ne peuvent pas trouver le sommeil. Donc, il faut sortir. Alors, et plus Aman, il grandissait dans son pouvoir. Plus Aman, il a atteint des hauteurs dans son pouvoir, et plus la chute, elle sera... Quelqu'un, il monte au premier, il tombe, bon, ça fait mal, mais s'il monte au centième étage et il tombe, alors ça fait très mal, d'accord? Exactement ça. Plus il monte, et plus il va, la chute sera mortelle. Et c'est ça, toute l'histoire de Purim, elle est basée là-dessus. C'est la prise de conscience de cette dimension. Le miracle, il n'est pas apparent. On doit le dévoiler. Et donc, Esther, elle prend de l'ampleur, elle va manipuler le roi et elle va produire sur Aman sa chute. C'est elle qui va produire la chute de Aman. C'est pas Mordechai. C'est elle qui a agi. On voit que ce qui était au début, c'est lui qui lui donne l'ordre, mais c'est elle qui agit. Lui, il lui a dit, va, si tu vas pas, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, non, elle va aller. Elle est consciente de sa responsabilité, mais elle agit de manière autonome. À la fin de la Megillah, Esther, elle a marqué qu'elle a envoyé au Chachamim, Kidvouni les Dorot. Pourquoi la Megillah, elle a été acceptée comme étant faisant partie du canon biblique, dans un des 24 Sfarim. Parce que Esther, elle a demandé. Elle a dit, on va écrire la Megillah, Beruach HaKodesh, avec un ktav de prophétique, et ça va être inscrit pour toutes les générations. Alors, ils lui ont dit, non, on veut pas. Il lui dit, non, vous devez m'écrire. Kidvouni ni les Dorot. Donc, c'est elle qui a insisté et obligé les Chachamim à inscrire la Megillah en tant que livre. Parce que c'est une histoire. Ça peut être une histoire. Il y a eu, pourquoi le livre des Hashmonaïm, il compte pas dans les livres Kodesh? Il y a une histoire. Il y a un livre des Hashmonaïm qui retrace tous les événements. Comme il est écrit comme des Psukim. Mais c'est pas un livre saint. C'est un livre historique. Et il rentre pas dans les 24 livres de la Torah. Esther, oui. Parce qu'elle est au summum de la puissance de la providence. Et Esther, elle n'est pas seulement une reine, elle est dans le rôle de la providence, la Shekhina qui agit et qui préserve et qui protège ses âmes Israël. Et ça, ce qui est extraordinaire. C'est pour ça que Esther, elle est le personnage central et important de cette histoire-là, c'est le malchut de la Shekhina. C'est le dévoilement de la Shekhina directement, et comme on voit comment elle agit, et qu'elle dévoile la puissance de la providence dans... On s'arrête ou bien... Comme vous voulez. Comme vous voulez. Et bon, c'est pour ça que les Veyemé à Purim, Elelo Yavru, ces jours de Purim, ils seront jamais, jamais perdus. Toutes les fêtes, elles vont passer. C'est-à-dire quoi, elles vont passer? Bon, il y a plusieurs interprétations. Pessah, par exemple, il sera secondaire à la fin des temps. Quand le Mashiach va venir, les miracles qu'il y aura là-bas, ils vont faire que Pessah, c'est secondaire annexe. Mais Purim, dans sa qualité, parce que justement, il s'agit de qui? Il s'agit d'Amalek. Amalek, il n'a pas... Aman ici, il a un pouvoir beaucoup plus puissant que celui de Pharaon à son époque. C'est-à-dire, il a un pouvoir terrible qui lui a été donné. Il peut dominer tout en Israël en un instant. C'est ce qu'on appelle Moler Bekipa. Il a un pouvoir étendu qui ne laisse un pouvoir totalitaire et absolu. Et ça, c'est Esther qui va lui faire perdre. Et c'est ça ce que la Megillah veut retracer. Bon, alors les mitzvot qu'il y a, c'est pour ça qu'on boit, on doit boire le jour de Purim, jusqu'à ne plus savoir distinguer entre Baruch Aman et Baruch Mordechai et Baruch Mordechai. C'est quoi cette histoire-là? C'est veut dire quoi? Pourquoi il faut dire Baruch Aman? Il dit oui, c'est exactement ça. Il dit parce que Yaakov, quand il a béni Yaakov, il a béni Yaakov, mais son intention c'était sur Esav. Alors nous, on va boire un peu beaucoup, et on va dire Baruch Aman. C'est-à-dire quoi? Mais en vérité, on le dit avec la bouche, mais là, on n'a pas la kavana. Donc on rétablit, c'est-à-dire que là, il aura jamais à Esav, il ne reçoit une bracha entière. C'est-à-dire, il reçoit pas. Pour que sa bracha elle soit entière et parfaite, il faut que on dise les mots et qu'on ait la kavana. Mais lui, il a pas. Il a et ça sert à quoi? Il a ou la kavana de Yitzhak, ou bien les paroles que nous on dit au moment de pour lui rétablir la chose. Mais il a jamais les deux à la fois. C'est-à-dire, de là, on voit que l'essentiel, c'est que quand on fait un acte, il doit s'inscrire dans une intention. S'il n'y a pas d'intention, l'acte, il n'a pas d'ampleur, d'intensité, il n'a pas de puissance. Donc, l'important, c'est de mettre dans les actes des énergies. Et ça, c'est marqué à la fin de la Megillah. Layodi, Maïta, Ora, Bessasson, mais ça semble bicar, et sur chacun des mots, on parle du mitzvah. La Ora, c'est la Torah, ça sonne les Yom Tov, Vikar, c'est les Tfilin, les Tzitzit, etc. Il dit, c'est quoi? Non, pas d'accord, il n'y a plus Tisha B'Av. Non, bien sûr. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Il dit, parce que eux, quand ils ont fait les mitzvot, ils étaient endormis. Ils faisaient pas, tout d'un coup, ils ont pris conscience que une mitzvah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et imaginez quelqu'un, il fait une mitzvah. On fait des mitzvot tous les jours. Mais quelle importance nous donnons aux mitzvot? C'est pas moi. Par exemple, une femme, elle allume les nerots de Shabbat. Elle allume, c'est routine. Bon, il y a quoi? Elle prend une bougie, elle allume. Il y a quoi de spécial là? Mais ça, c'est une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? C'est comme si que vous allumez un joyau, un diamant sur la couronne de Dieu. Et c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est comme si qu'on place un diamant, on met un ornement sur la couronne de Dieu. Un homme, il met les tefillin. Et tous les jours, il met les tefillin. C'est quoi les tefillin? Alors imaginez quelqu'un, il va à Buckingham et on lui dit, voilà, vous voyez les joyaux de la reine d'Angleterre. Alors tu peux les t'asseoir sur le trône pendant 10 minutes, et tu mets sur ta tête la couronne du roi avec là-bas des diamants qui sont la grandeur d'une boule d'une balle de tennis. Énorme. Comme quelle valeur ça a? Mais quel plaisir quand même il a mis pendant 5 minutes. Mais toi, tous les jours, tu mets la couronne de Dieu. Donc la tefiline, c'est pas un morceau de cuir avec des parchemins, c'est pas ce que c'est. Mais imagine, quand tu mets les tefilines, tu mets un joyau qui n'a pas étincelant, un ornement et scintillant de la Shekhina de Dieu. Il n'y a pas de valeur, ça vaut 1 milliard, plus qu'un milliard. Il n'y a pas de valeur. Quand on fait une mitzvah, ça n'a pas de valeur. C'est ça, ils ont pris conscience de ça. Ils ont pris conscience que la mitzvah, que la Eudimata aura, c'est une lumière, une vraie lumière. La Eudimata aura, mais ça sent vicar. Donc quand ils faisaient la mitzvah, ils faisaient avec ça sent, avec simcha, vicar, avec fierté. C'est-à-dire, ils prennent conscience de la valeur véritable de la mitzvah. Qu'est-ce que c'est une mitzvah? C'est quelque chose de cher, qui n'a pas de valeur. On peut pas, y a pas de prix pour la mitzvah. Quand ils ont compris ça, à la fin de l'histoire, quand ils ont fait tchouva, sur ça, il faut faire tchouva. C'est ça le sens de la tchouva. C'est ça que Dieu, il dort. Dieu, il dort parce que nous, on l'a endormi. Dieu, on fait le mitzvot, on fait la prière. Tous les jours, la même prière. Tous les jours, Dieu, il n'en a pas marre de nous entendre. Toujours la même prière, bâclé comme ça, tac, 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 tac. Les gens, ils font la même prière, sans ferveur. On dirait, il y en a qui font la prière, on dirait, on appuie sur le bouton et l'enregistrement d'hier. Mais Dieu, mettez-vous à la place. Si quelqu'un, il vient, il vous raconte une histoire, la même histoire, tous les jours, pendant un quart d'heure, au bout de deux fois, déjà, vous êtes pas prêt à l'écouter. Mettez un cours que vous avez écouté 100 fois, le même cours, les mêmes mots, les mêmes trucs, toujours la même histoire, une histoire qu'on l'a dit une fois, ça va, deux fois, encore, au bout de la quatrième, cinquième fois, on s'en fout, ça ne nous intéresse plus. Pourquoi? Parce que c'est du réchauffé. Alors Dieu aussi, on lui fait le réchauffé. La même mitzvah, le même truc, la même attitude, les mêmes... Alors pourquoi? Non, il dit parce qu'il faut innover chaque jour. Il ne faut pas que ce soit la mitzvah d'aujourd'hui comme la mitzvah d'hier. C'est ça ce qu'ils ont pris conscience de ça. Et en prenant conscience de ça, ils ont été délivrés. Et ça, on le doit à Esther Amalka. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.